La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
7h12, c'est l'heure des voix de l'économie. La doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po est votre invité, François.
Bonjour Natacha Valla.
Bonjour François.
Le gouvernement n'a plus d'argent à distribuer, mais il aimerait bien donner des bonnes nouvelles aux Français, si possible sonnantes et trébuchantes. Vous venez d'être nommé au sein d'un haut conseil aux rémunérations. Alors où en est-on sur le sujet des salaires et éventuellement des hausses de salaires? Comment vous voyez les choses?
Les salaires, de façon générale, ils sont déterminés par plusieurs facteurs, bien sûr. Ça a été vrai de tout temps. Un facteur principal pour que l'évolution des salaires soit soutenable dans le temps, c'est le fait qu'ils soient en ligne avec les gains de productivité dans un secteur, dans une entreprise ou dans une économie. Donc, on peut avoir des variations dans les évolutions de salaires en fonction des performances de productivité. Alors, ce serait trop simple si ça n'était que ça. Et c'est tout le sens du travail qui va être celui du Haut Conseil, je pense. C'est de dire, il y a une condition de faisabilité qui est cette évolution de la productivité, mais il y a aussi ce qu'on appelle le salaire d'efficience. C'est-à-dire qu'on doit rémunérer le travail à sa, entre guillemets, juste valeur. C'est une chose, on y reviendra après, mais aussi à une valeur qui soit motivante pour les salariés. Et je pense que là...
Sous-entendu, ça n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors,
pas pour certains secteurs.
Ça dépend des secteurs, ça dépend des trajectoires de carrière, et je pense qu'aussi les préférences des travailleurs changent. C'est-à-dire que on avait auparavant, quand on entrait dans la vie active, des aspirations, sans doute des aspirations à des carrière un petit peu plus continue, un peu plus linéaire, mais aussi avec un peu plus de visibilité sur son évolution salariale. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Mais pour revenir à cette question de salaire d'efficience, il faut motiver le salarié pour qu'il soit non seulement heureux au travail, mais productif dans son activité. Et toute la difficulté est là. Alors, en France, ça prend une dimension particulière. Pourquoi ? Là, je suis un petit peu obligée de revenir en arrière.
Allez-y.
Dans l'histoire, on a observé, mais c'est quasiment mondial comme observation dans les pays avancés, que les salaires réels et la productivité avançaient côte à côte jusqu'aux années 70. Et puis, années 70, ça ne nous a pas échappé, on a une grosse inflation, grosse période de
choc pétrolier,
recadrage, voilà. Et c'est là que les choses ont commencé à diverger. Et ça a été un problème, la grande divergence entre une productivité qui n'était pas suivie par la croissance des salaires. Ça nous amène donc à un troisième point qui est celui de la répartition de la valeur. Est-ce que la valeur va vers le salarié, je simplifie, mais c'est quand même un petit peu ça, ou est-ce qu'elle va vers la rémunération des autres parties prenantes, notamment des détenteurs du capital? Donc ça fait partie aussi des discussions, bien sûr c'est au cœur des négociations des partenaires sociaux et des syndicats, qui sont d'ailleurs aussi autour de la table du Haut Conseil, mais c'est un élément et un élément seulement. En France, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les études de l'évolution du salaire réel par rapport à la productivité, ben, les choses se sont pas si mal passées que ça jusqu'au Covid, en tout cas.
Après, oui, parce que depuis 2019, la productivité, et vous êtes présidente par ailleurs du Conseil national de la productivité en France baisse depuis 5 ans.
Exactement.
Ce qui est très préoccupant.
Alors, c'est très préoccupant parce qu'en termes relatifs, on perd du terrain par rapport à nos pairs européens, mais aussi de façon générale dans
le monde. Ça veut dire, juste pour traduire, que chaque salarié produit un petit peu moins, si on doit faire une moyenne.
C'est ça. Alors, ça a été de bonne guerre au tout début du Covid, parce qu'on a voulu préserver l'emploi, et c'était une bonne chose. Mais ensuite, ces derniers mois, ces derniers trimestres et ces dernières années, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, et ce sera plus compliqué à soutenir si ça reste le cas trop longtemps.
Ce qui est difficile aussi dans ce que vous nous décriviez sur le partage de la valeur, c'est qu'on voit que d'une entreprise à l'autre, y compris deux grandes entreprises qui peuvent avoir des fortunes diverses, ou entre des grands groupes et des PME qui ne seront pas forcément aussi généreux en intéressement, participation, augmentation générale et individuelle, on peut avoir deux personnes, deux voisins de palier du même immeuble qui font un métier similaire, qui ont le même âge, les mêmes compétences, le même CV et qui se retrouvent avec des écarts de rémunération ou de primes importants. Et c'est cette injustice-là qui est impossible à traiter pour un gouvernement.
Ben complètement. Le gouvernement ne peut pas faire ce de la micro-gestion de chaque entreprise. Chaque entreprise a son propre appareil productif. Donc, on peut avoir le même profil, la même aptitude au travail et être beaucoup plus productif dans une entreprise par rapport à une autre. Et du point de vue de la rémunération, certaines entreprises, souvent les plus grandes, parce qu'elles ont plus de moyens de penser aux choses et de voir à long terme, mais ont plus de leviers pour rémunérer. Pas seulement un salaire immédiat qui tombe à la fin du mois, mais des avantages en nature, mais aussi des intérêts, mais aussi des choses qui sont livrées à un petit peu plus long terme, ce qui permet d'intéresser la trajectoire de carrière à la destinée de l'entreprise. Ça, tout le monde n'a pas les mêmes moyens de le faire.
Alors, Natacha Valla, la Banque de France, à propos de la productivité, a pu éventuellement nous rassurer. Il y a quelques jours, elle a sorti une note sur le sujet. Alors oui, il y a cette baisse de productivité depuis le Covid, mais semble-t-il, c'est en train en partie de se résorber.
Alors, c'est en train de se résorber. On va pas
gentiment, on va dire.
On va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En tout cas, ce qui est vrai, et on est d'accord avec ça au Conseil national de la productivité, la Banque de France y est représentée, donc on travaille vraiment de concert, c'est que une bonne partie du ralentissement qui a été observé post-Covid, c'est un ralentissement qu'on appelle conjoncturel, c'est-à-dire lié à des facteurs temporaires qui sont des facteurs liés à des modifications sur l'offre de travail, une politique qui, comme je le disais tout à l'heure, protégeait le niveau d'emploi. Donc ces choses-là, puis il y a aussi d'autres politiques qui sont plus porteuses à moyen terme, de type mesures qui soutiennent l'apprentissage. L'apprentissage, ouais, à court terme, c'est un coût en productivité dont on espère qu'il va en générer à long terme. Donc toutes ces choses-là sont comprises. Ce qui n'explique pas quand même...
Ça n'explique pas toute la baisse de productivité.
Voilà, il y a une bonne partie quand même de cette baisse de la productivité, notamment relative de la France par rapport à ses pairs, qui reste inexpliquée. Donc c'est ça tout le sujet.
Alors, ce Haut Conseil aux rémunérations dont vous faites partie, il se penche sur tout un tas d'outils. Est-ce qu'on peut régler ce problème, notamment des grilles de salaire qui comportent plusieurs échelons sous le SMIC, qui font que même quand on est augmenté au début de la grille, en fait, on n'est pas augmenté, on touche toujours le SMIC?
Ça, c'est rendu visible, ça a été rendu visible à cause de l'inflation, on va dire, puisque le SMIC étant indexé sur l'inflation, et l'inflation ayant été ces dernières années assez vive, finalement l'augmentation du SMIC, ça a été plus de 10% en quelques années, donc on n'a pas pu suivre le reste. Je sais que les pouvoirs publics sont peut-être un petit peu agacés par rapport à ça. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment le salaire effectif et, encore une fois, le lien de ce salaire, entre ce salaire et la productivité. Je pense qu'une réflexion au niveau de la productivité par branche et par secteur sera beaucoup plus productive pour voir si effectivement, si on veut avoir une idée d'un salaire minimum et une rétribution minimum, qu'elle soit au moins alignée à ce qu'elle peut soutenir à moyen terme. Il y a d'autres aspects aussi qui sont vraiment à creuser au-delà de ces grilles. Il y a la question des formes d'emploi, du temps partiel, notamment le temps partiel subi. Ça fait partie des choses qui sont moins directement quantifiables, des problématiques qui sont moins directement quantifiables avec un lien lié à la rémunération, mais il y a aussi la question de l'inégalité homme-femme quand même.
D'ailleurs, le temps partiel subi touche plus les femmes que les hommes.
Voilà, donc on en vient à des images de la société finalement qui sont reflétées dans le monde du travail et aussi par le biais des rémunérations. C'est un symptôme, on traitera pas la cause, mais il faut quand même regarder la cause pour arriver à des choses un petit peu plus level playing, comme disent les Anglais.
Et alors, Natacha Valla, les classes moyennes sont l'objet de toutes les promesses du gouvernement, sauf que cela représente une part énorme de la population. À qui ça ne servirait à rien, sans doute, de distribuer les miettes d'un chèque fut-il de 2 milliards d'euros, parce que c'est toujours la promesse sur la table. Comment vous voyez les choses?
Moi, j'aime bien voir les choses vraiment dans leur ensemble. C'est-à-dire que la population française, on parle là essentiellement, il faut le rappeler, de tout ce qui n'est pas fonction publique.
Oui.
Or, la fonction publique représente une grande partie quand même de
6 millions de personnes.
De l'emploi. C'est ça, en France, ça fait quand même un beau sujet. Donc, avoir une réflexion d'ensemble, je pense que c'est assez cohérent pour justement éviter d'avoir des tensions qui se radicalisent. Et puis, il y a bien sûr les extrémités, mais vous l'avez évoqué, les extrémités de la répartition des revenus, notamment des revenus salariés.
Oui.
On parle du salaire, on ne parle pas des autres revenus. Donc il y a encore cet aspect-là qui contribue à une inégalité effective de fait de revenus, qui est liée au fait qu'on a des revenus salariaux, mais aussi des revenus de compensation, enfin liés à la redistribution, ce qui fonctionne plutôt bien en France. Et pour l'autre extrémité de la répartition des revenus, il y a bien sûr tous les revenus du capital, du patrimoine, qui font que ces inégalités-là ne sont pas seulement liées au salaire.
Natacha Valla, doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po, notre voix de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique. Et évidemment, je rappelle que tous les jours, tous les matins à 6h20, vous êtes avec nous également pour approfondir une notion clé de la science économique, ça s'appelle les classiques de l'économie. C'est à 6h20 et c'est en podcast.
À demain et merci à tous les deux. À demain 6h pour la matinale de l'économie. François, dans 3 minutes, les coulisses de la politique. Ce matin, présentation d'un rapport parlementaire sur l'école privée, lequel pourrait réveiller la guerre scolaire.